à toutes et à tous, bienvenue sur Hey Good, votre podcast Hallyu. Je m'appelle Patra et je suis en compagnie de Vicky. Salut Vicky! Comment ça va depuis la dernière fois?
Ah, mais on fait aller.
Moi, depuis la dernière fois, ben ça va, hein, de toute façon, parce que c'est bientôt l'été, ce sont des vacances qui seront bien méritées et qui seront productives aussi, j'espère. Et je suis plutôt contente parce que je sens que ma créativité et mon envie de faire plein de projets en train de revenir, parce que entre 2015 et 2016, j'étais un peu dans le brouillard. Et c'est surtout de ça, en fait, je pense que dont j'avais envie de parler cette fois-ci, c'est en tant que fan, pourquoi et comment mettre sa passion au service de la communauté. Parce que, en fait, on se rend compte que l'information est la base de toute communauté, et c'est celui ou celle qui détient l'information qui fait ensuite le choix de partager ou pas, qui va avoir une sorte de petite visibilité ou grande visibilité dans certains cas, et qui peut influencer et peut jouer sur l'unité au sein d'une communauté, pour le meilleur et pour le pire.
Certainement.
Et en fait, comme ça fait plusieurs années que je vois passer des remarques, des avis, des critiques sur la diffusion d'informations dans la communauté francophone de K-pop, même si parfois on retrouve en général les mêmes remarques dans la communauté internationale, mais bon, je parle vraiment du cas francophone. J'aimerais vraiment profiter de cet épisode pour discuter un petit peu des conditions et des enjeux qu'on trouve autour de la diffusion des news de K-pop. Un petit disclaimer avant, tout ce qui sera dit dans cet épisode est basé sur nos expériences personnelles, aussi bien dans la communauté internationale de fans que dans la communauté francophone. Donc j'aimerais juste rappeler que personnellement j'ai traduit des news, donc c'était pas que K-pop, c'était, moi je dis plus Hallyu, parce que je faisais aussi drama et cinéma.
Ouais, c'était divers.
Donc j'ai traduit des news de façon quotidienne, quasi quotidienne, entre 2010 et 2016. Donc d'abord j'ai fait de l'anglais vers le français, et puis ensuite quand j'ai passé ma licence de coréen comme j'ai passé ma licence de coréen entre-temps, j'ai pu aussi me lancer dans de la traduction du coréen vers le français. Et là ça fait 3-4 ans que je traduis des interviews de magazines du coréen vers l'anglais. Et toi Vicky, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours de fan de K-pop?
Alors c'est vrai que moi j'ai surtout commenté en fait sur les sites francophones de K-pop, mais j'étais quand même là au départ de la création de la fanbase française actuelle du Big Bang, United French VIP. Donc voilà, je suis restée pas hyper longtemps non plus, mais j'étais là en fait de la création à donc qui a duré plusieurs mois quand même hein, parce que c'est un gros projet. Je suis pas restée très longtemps. Quelques mois, je pense, bon, les quelques mois de la création en fait et les quelques mois du départ. Voilà, comme c'est assez compliqué, on vous en parlera. L'ambiance d'une fanbase, ça peut être un peu compliqué. Et voilà, mais mine de rien, j'ai passé quand même un petit peu de temps, donc je pourrais vous en parler un petit peu. Et voilà.
Ok, donc ben, la première chose, je pense, pour discuter de tout ce qui est information et diffusion de news, c'est d'abord, mais d'où viennent toutes les informations?
Du ciel!
Bien sûr. Ben, toi, par exemple, Vicky, est-ce que tu peux nous dire quand tu as débarqué dans la K-pop, où tu trouvais tes infos?
FR! Ouais, j'ai vraiment commencé par ça parce que, alors je sais plus, je crois que j'avais donc découvert la K-pop par un live radio de Supalove des Teen Top qui m'avait été suggéré par YouTube, et après bah, j'ai cherché qui était le groupe et je suis tombée directement sur des articles de SoompiFR, et c'est par là que j'ai connu Big Bang d'ailleurs, et du coup voilà, il y avait des images des teasers de Fantastic Baby, et ça m'avait tout de suite attirée, c'est comme ça que je suis arrivée vers Big Bang avec toutes les couleurs, et voilà, et après moi je suis vraiment restée sur SoompiFR en fait, j'avais trouvé mon coin et enfin c'était assez prolifique en termes de news. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt d'aller ailleurs en fait, il n'y avait pas mieux.
Ouais. Alors en fait, avant, donc on va reprendre sur ce qui se faisait avant Soompi France. Juste, je vais d'abord parler un petit peu de ce qui se passait d'abord pour. Enfin, plutôt, comment les news arrivent sur les sites coréens. Parce qu'il faut savoir que, en fait, les agences en général, quel que soit, enfin, dès qu'il s'agit d'une news sur les photos teasers, la sortie d'un clip vidéo, la sortie d'un album, elles font leur communiqué presse et ensuite elles les envoient à toutes les rédactions. Et ensuite, ce sont les rédactions qui décident, ou, enfin les journalistes, qui décident ou pas, soit de faire un copier-coller, et du coup ils publient juste comme ça, ou alors ils vont changer, ou alors ils vont appeler l'agence pour demander un peu plus d'infos. Et dans ce cas-là, on va avoir, oui, on va avoir ajouté une source a dit que, en précisant peut-être sur une date ou sur qui a travaillé sur le projet. Ou alors, elles peuvent retirer en fait des informations pour les découper, enfin pour découper en plusieurs articles. Donc tu vas avoir un premier article à 9h qui sera,
Ah
oui, on
oui.
va juste vous dire, oui, bon, bientôt un tel va sortir un album. Et puis à 11h ou à midi, on va te dire, oui, bah en fait, on en sait un peu plus. On sait que c'est un tel qui va travailler sur le projet. Et puis voilà. Donc c'est vraiment les agences qui contrôlent toutes les informations à ce niveau-là. Et donc tous les sites, enfin les sites coréens en général, tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste reprendre telles quelles les infos. Et puis après, le public peut consommer. Donc c'est pour ça aussi qu'on va retrouver des formulations qui sont plutôt similaires, voire carrément identiques. Et donc, j'en reviens sur une des remarques que je retrouve, j'ai souvent retrouvé, c'est oui, mais vous avez forcément copié sur tel site, hein, parce que vous dites exactement la même chose. Mais en même temps, comme c'est de la traduction, et là ça parle aussi bien, je parle de traduction aussi bien que ce soit du coréen vers anglais que du coréen vers français ou de anglais vers français. À partir du moment où tout le monde part du même document, c'est normal de se retrouver avec des phrases parfois identiques, souvent très similaires, parce que tout le monde part du même part du la même source.
Après, la critique des gens souvent ne se fait pas autour de la traduction du communiqué de l'agence, mais plutôt de ce qu'il y a autour. Quand justement les gens rajoutent une forme à leur article et que la forme elle-même est traduite dans un autre article, on se dit que la source qui a traduit le communiqué aurait pu se donner la peine d'encadrer le communiqué de ses propres annotations.
Bon, là aussi, ça c'est un autre
C'est un
cas.
sujet de débat aussi.
Ouais, mais ça, bon. Et bon, de toute façon, en traduction, on peut toujours discuter de, oui, on aurait pu traduire de telle façon, mais bon, voilà. C'est surtout ça, c'est que les informations, elles nous viennent des agences. Les informations de tout ce qui est sortie musicale viennent des agences. Et en ce sens, le plus gros site de news. Je crois que c'est toujours celui-là, je pense, même en 2018. C'est Star News, qui existe depuis 1999-2000, il me semble, qui en fait réussit à concentrer vraiment tout ce qui est entertainment. Donc ils sont premiers, que ce soit aussi. Quand je dis premier, c'est vraiment en termes de rapidité. Ils vont te sortir les infos, les premiers, et tu
Ouais,
vois.
tu parles pas de trafic, quoi, c'est
Non, je
vraiment en
parle.
termes de...
Enfin,
Ouais.
en termes de trafic aussi.
Ah.
En termes de trafic aussi, parce qu'ils sont rattachés à un gros groupe, donc de
Ouais.
toute façon. Et puis ils ont aussi l'historique derrière, quoi. Je te dis, ils existent depuis 1999-2000. Bon, ça va bientôt faire 20 ans, donc c'est un site qui est rodé, et puis ils ont les connexions aussi pour sortir les infos rapidement. Parce qu'on va peut-être on va peut-être les privilégier par rapport à eux, on va leur envoyer l'info à 8h, et puis aux autres, on va leur envoyer à 9h. Tu vois, donc juste créer un petit décalage. Mais c'est sûr que Star News a l'avantage d'être parmi les plus anciens sites. Donc du coup il a une
Une notoriété.
garantie de la visibilité, mais surtout le côté fiabilité. Le côté fiabilité qui fait que quand Star News va te sortir un scandale, en général tu vas te dire oui, c'est certainement ce qui s'est passé. C'est pas comme Dispatch, quoique maintenant Dispatch, parce que là ça fait depuis. Donc Dispatch a été fondé en 2010. Donc ça va faire 10 ans que le site existe. Donc là 8 ans, mais bon. En année de news, K-pop, je veux dire, en année de scandale et tout, ça fait beaucoup quoi d'être resté là au bout de 8 ans. C'est un site. Il a encore beaucoup de mal à être fiable. Enfin, il a pas ce, il, quand on te dit dispatch, on va te, c'est le côté tabloïd qui ressort tout de suite.
Bah oui, parce qu'ils ont fondé leur réputation sur le fait de révéler des choses pas positives au final, de révéler des choses sur la vie privée des gens et tout ça. Donc forcément, c'est une connotation négative et ça garde l'image de tabloïd.
Et en fait, pour moi, il y a vraiment un avant dispatch, donc c'est-à-dire avant 2010 et puis après 2010, après l'arrivée de dispatch. En fait, ça un peu le lancement de ce site a un peu secoué les autres.
Ouais, ça a un peu pipolisé le milieu, quoi.
Ouais. Et puis quand on voit les scandales, parce que maintenant dispatch a son rendez-vous annuel chaque 1er janvier. On te révèle deux ou trois couples.
Le concept.
Voilà, mais c'est. Mais bon,
Oui.
on sait qu'en général, ils préviennent les agences en disant, voilà, on va révéler que un tel et un tel sont ensemble, sachez-le. Et au final, ben, même si on les critique beaucoup,
Ouais.
mais s'ils sont encore là, ça veut dire que ça marche.
Eh ben oui, c'est toujours la même question, c'est l'offre et la demande, hein.
Ouais, je pense qu'ils génèrent beaucoup de trafic et beaucoup de clics, et puis surtout, ils ont leurs photos exclusives. Et ça aussi, c'est un des enjeux pour la diffusion des informations, c'est l'utilisation de photos. Parce que tu as les photos
Oui.
officielles que les agences te fournissent, et puis tu as les photos, genre les photos à l'aéroport, ou les photos quand tu vas sur une émission, ou tu sors de l'émission. Ou simplement des photos où la personne, enfin la star est en train de se balader.
C'est vrai que de nos jours, en même temps, tout est plus visuel. Les gens préfèrent voir que juste savoir. Donc, forcément, ils ont su jouer là-dessus à l'époque où ça a commencé à compter, en fait.
Et puis avec le développement d'Instagram et tout ça, parce que je dis plus Instagram dans les habitudes des Coréens parce que ils ont toujours été très réseaux sociaux. Mais c'est juste que maintenant comme ils peuvent atteindre une communauté internationale, donc ils utilisent aussi les mêmes outils que les Occidentaux. Mais donc du coup, les photos exclusives des sites de news, bah elles seront vraiment sur des instants volés ou sur vraiment des actions dans le quotidien que les stars ne vont peut-être pas promouvoir elles-mêmes sur Instagram. Et pour les scandales. Juste une dernière chose, c'est qu'il y a toujours la théorie du complot comme quoi quand tu vois deux scandales, au minimum deux scandales dans la même journée, c'est qu'on est certainement en train de couvrir un scandale politique ou un scandale financier. Alors, c'est pas faux. Bon, j'ai cherché des exemples, mais en fait, il y a tellement de scandales.
C'est Jenny qui avait retenu le plus d'exemples par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est les Coréens eux-mêmes qui en parlent. C'est vrai qu'il se passait beaucoup de choses sur le plan people révélation à des moments où au final on avait l'impression que ça arrangeait bien le gouvernement, que les gens pensent à autre chose. Et il y a des périodes où même les Coréens nous demandaient en fait à l'international de relayer des informations sur ce qui se passait au niveau politique dans le pays, quoi. Donc après le truc c'est oui, c'est le problème de théorie du complot, c'est que ça se base toujours sur des choses qui sont réelles, mais après c'est des questions d'interprétation et puis il faut pas aller trop vite non plus dans ce genre de choses.
Non, et puis franchement, quand tu vas sur Nate par exemple, t'as toutes les sections possibles, t'as les sports, t'as tout ce qui est entertainment, t'as politique, t'as économique. Si tu veux cliquer sur une news économique, tu vas cliquer sur la news économique de toute façon. Alors certes, quand les gens cliquent sur les articles, ça les fait monter dans le top,
C'est ça.
dans le classement en temps réel.
C'est ça.
Donc c'est surtout ça en fait quand on te dit oui ils utilisent le scandale de tel couple, enfin la révélation de tel couple pour cacher un scandale, c'est parce que l'article du scandale politique va pas se retrouver dans le top des classements en temps réel.
Après, c'est normal que les gens se posent des questions dans la mesure où tu vois, par exemple, le budget que le gouvernement met dans la K-pop et ce genre de choses, tu vois. Donc, forcément, quand il y a le gouvernement se mêle de l'entertainment, les gens se demandent après, justement, s'ils font pas les choses pour que ça les arrange aussi, quoi. C'est logique, c'est logique.
Ouais. Donc en tout cas, tout ça pour dire que les médias coréens actuels, ils proposent surtout des photos originales, des interviews et des scandales. Ce sont toutes les choses en fait que les agences et les stars elles-mêmes ne vont pas produire de façon spontanée, que ce soit par les réseaux sociaux ou par les biais de leur site, des sites officiels. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le succès de la K-pop à l'international, les agences aussi, elles ont développé elles-mêmes leurs propres moyens de diffusion de tout ce qui concerne les actus musicales de leurs artistes. Donc en fait, même les sites coréens, on n'en a plus trop besoin maintenant pour avoir ce genre d'infos.
Maintenant, par exemple, maintenant les agences sont pas mal actives sur leur chaîne YouTube. Je sais que moi je suis abonnée à quelques chaînes et genre on a les teasers de l'ASM. Voilà, généralement ils sortent et au final les articles sur les sites de K-pop mettent quelques heures de latence des fois à avoir les teasers alors que si on est abonné à la chaîne YouTube, en fait on les a eu directement quoi.
Comme les agences ont développé elles-mêmes leurs propres moyens de diffusion avec YouTube, avec Twitter, un peu moins Instagram, mais quand même. Mais c'est vrai que c'est plus facile enfin, de balancer une vidéo sur YouTube ou de faire une annonce via Twitter. Donc elles ont vraiment intégré tout ça, cette dimension internationale, dans leur stratégie marketing. Donc du coup, nous, en tant que fans internationaux, la question se pose, c'est comment relayer cette information au niveau de la communauté qui est en dehors de la Corée du Sud. Et en fait, il y a eu une évolution des moyens que les fans ont utilisés pour rester informés des actus musicales. Alors tout a commencé avec tout ce qui était forum et blog. Donc,
C'est un peu l'histoire d'Internet en même temps. Au début, les gens communiquaient surtout sur des forums ou des blogs, en fait. Hein.
Donc évidemment, celui qu'on citera et puis ce qui est la première vraie communauté de fans de K-pop international, c'est le forum blog de Soompi, qui a été fondé en 1998, donc qui a été vraiment fondé genre quelques mois après les débuts de la première génération, parce que les premiers groupes, H.O.T., Finkel et tout ça, c'est 1997. 1997, donc voilà, elle était fan, la fondatrice était fan, elle a eu envie de partager avec ses amis. Donc elles ont commencé à communiquer, et puis au fur et à mesure, t'as d'autres fans qui arrivent. La communauté s'agrandit au fil des années. Et ensuite, on arrive à un moment où on se rend compte, ben, peut-être qu'on peut se faire de l'argent sur ça.
C'est la tristesse quand tu commences à
Ben
basculer.
oui, et donc on voit que, par exemple, All K-pop a été lancé en 2007. Et eux, ils ont tout de suite été dans le côté, ben, nous, on est vraiment là en tant que, on se positionne en tant que média pour transmettre des informations sur la K-pop. K-pop, et puis tout ce qui est cinéma-drama aussi, un petit peu, mais surtout K-pop. All K-pop, quoi. Et en fait, à partir du moment où on commence à monétiser la diffusion d'informations, on se rend compte, eh ben, qu'il y a d'autres sites qui se forment sur le même modèle. Et donc 2007, c'est l'avènement de la deuxième génération. TVSQ, Super Junior, Big Bang, Sonyeosidae, Wonder Girls. Et donc en fait, ces sites, ils exerçaient un premier filtre. Parce que quand t'écris en tant que fan, tu fais ton blog, t'es sur ton forum et tout, tu vas échanger que sur ce que tu aimes, ça c'est sûr. Mais à partir du moment où tu te présentes comme un média, ça veut dire qu'il faut quand même essayer d'être assez généraliste,
C'est ça,
mais
et
tu peux pas,
partial.
voilà, impartial, et impartial, et tu peux pas non plus traiter de tout. Donc, à partir du moment où tu commences à dire, bon ben maintenant je vais gérer telle ou telle, enfin je vais proposer telle ou telle news, je vais laisser de côté celle-ci ou celle-là, ben, tu commences déjà à influencer la vision de toute une communauté. Et à partir, enfin 2009, 2010, il y a Koreaboo qui est né. La particularité de Koreaboo, c'est d'avoir pu proposer tout de suite des partenariats enfin directement avec des agences coréennes. Enfin des agences de médias aussi, parce qu'ils ont travaillé avec Mnet, avec CJM, la société de production CJM, donc. Et c'est quand même Coréaboo SIGM Media, Mnet et tout ça, qui se sont associés pour créer la première convention K-pop internationale. Et donc on a même eu une édition, donc le KCON, qui a eu lieu à Paris en 2016. Donc après, je ne sais pas s'ils vont en refaire un jour à Paris.
Je sais pas, parce que là, c'était dans le cadre d'une année de relations franco-coréennes, donc du coup, ça collait bien. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises.
Ouais, il
je
me semble aussi.
C'est... Parce qu'on a eu la présidente qui est venue, je m'en rappelle, au concert, j'étais là, quand elle a salué la foule. Et voilà, du coup, ça, honnêtement, ça va vachement dépendre comment ça va évoluer, parce qu'il y a tout le bazar autour de BTS en ce moment, qui fait que ça intéresse les Américains, qui fait que tout ce qui intéresse l'Amérique intéresse le reste du monde. Et donc, avec l'effet boule de neige, c'est pas impossible qu'on on est de nouveau à Paris, peut-être pas tout de suite, mais bon, honnêtement, dans les années qui viennent, quand même probablement. Ou alors en Europe ailleurs.
Peut-être peut-être un autre.
Peut-être Londres, ou je sais pas, ou en Allemagne, peut-être.
Ben, le problème de Londres, c'est qu'il faut traverser quand même la Manche. Non, mais ouais, tu ris, mais c'est vrai, parce que bon, même si je veux pas faire ma chauvine, mais bon, l'avantage d'être sur Paris, c'est que on est quand même plus sur le. On centralise l'Europe, quoi. Enfin, c'est
ouais,
plus simple.
Ouais, bah oui. Mais de toute façon, tu sais qu'il y a beaucoup de fanbase qui s'étaient organisées. Je sais pas si c'était pas pour essayer d'avoir un concert de Shiny. Enfin bref, il y a énormément de fanbase qui justement relient les fanbases internationales et plus particulièrement les fanbases européennes en disant bah, ça arrange tout le monde si on fait à Paris parce que c'est plus proche de tout le monde. Et au final, oui, on en revient souvent à ça. C'est vrai qu'on est un peu central dans l'Europe de l'Ouest.
Oui. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait sur l'évolution des moyens de diffusion de l'info. Donc après Coréabou, on a vu aussi apparaître, et donc là c'est vraiment le côté où c'est plutôt une question d'avoir l'information, mais c'est surtout de commenter l'information. En 2013, et surtout commenter de façon satirique.
Oui.
Donc à partir du moment où tu commences à pouvoir te moquer de ce que tu aimes, c'est que quand même c'est plutôt bien rentré dans les mœurs, c'est que t'as créé une communauté avec suffisamment de matière pour dire que tu peux critiquer.
Ouais.
Et donc, quelques exemples rapides. Bon, c'est qu'en anglais, après en français, je sais pas trop s'il y en a eu. En tout cas, en 2013-2014, il y avait le blog, il y a eu le lancement du blog K-Popalypse. En 2015, il y a eu le lancement, je sais pas si c'était 2015, mais en tout cas, ces premiers articles remontent à 2015 pour moi. C'est le blog d'Asian Junkie. Qui ont un ton très sarcastique, assez réaliste aussi, enfin c'est sarcastique et réaliste aussi dans la façon de présenter la K-pop et puis tout ce qui se passe derrière. Et après, avec Netizen Buzz en même temps, en parallèle, on a vu apparaître ce média qui se base sur juste la traduction du titre de la news et qui propose des traductions des commentaires des internautes coréens. Donc tu te retrouves avec les internautes anglophones qui vont commenter sur ce que disent les internautes coréens. Donc on réagit même plus par rapport à la news, on réagit aux commentaires de ceux qui commentent la news.
Bah ouais, mais c'est un peu comme les réactions en cascade, tu vois sur YouTube la mode des vidéos de réactions des gens qui regardent des choses, tu vois, cette espèce de voilà d'inception de commentaires. C'est ouais. J'ai l'impression que maintenant ça se fait dans tous les domaines, quoi. On commente les réactions. Enfin, tu connais pas le bout de ce truc, quoi.
Et juste parce que je parlais de Netizen Buzz qui a quand même une réputation assez négative malgré tout. De l'autre côté, t'as Panchoa qui propose aussi des commentaires d'internautes, mais en général, ce sont les commentaires positifs. Donc, en général, on les oppose tous les deux. On va dire d'un côté, si tu veux aller du côté obscur de la force, tu vas du côté de Netizen Buzz. Et puis, si tu veux aller chez les bisounours, et ben tu vas chez Panchoa et comme ça, tu verras.
Netizen Buzz, c'est intéressant parce que des fois, t'as de la méchanceté gratuite et des fois, t'as juste de l'humour un peu gras, quoi. Donc, d'une fois à l'autre, ça peut être tout à fait acceptable. Ah ouais, non, c'est inutilement violent, quoi.
Mais en tout cas, le fait d'arriver à cette façon de proposer de l'information aux fans internationaux, ça montre qu'on est, on est vraiment dans la consommation. C'est même plus, on porte vraiment de moins en moins d'intérêt à l'information elle-même,
Bah, c'est parce que comme ça fait partie de notre quotidien, l'information, on s'y attend. Il y a moins la surprise de attention, ça va arriver. On s'attend à ce qu'il y ait des comebacks réguliers, ce genre de choses, c'est rentré dans notre quotidien. Du coup, c'est plus la manière dont les gens vont réagir qui nous intéresse pour garder ce suspense, quoi.
Ouais. Et donc, mais du coup, ce suspense pour les fans, on va dire, bah, à partir du moment où il y a de plus en plus de médias pour diffuser l'information, bah, effectivement, il y a de moins en moins d'attentes et d'anticipation. Donc, on est vraiment dans un côté de la consommation. Et quand on est fan français, on reste quand même en décalage par rapport aux fans. Et quand on est fan français, qu'on ne parle pas anglais, on reste quand même en décalage par rapport au reste de la communauté internationale parce qu'il faut. Attendre, donc soit que les fanbases diffusent l'information, ou alors que des sites de news aussi, des sites généralistes, proposent l'information. Donc en France, pour faire un petit historique, sans rentrer dans les détails, hein, parce que c'était, sinon ça serait fastidieux, à la base, il y avait deux gros blogs. Il y avait kpop.fr et il y avait K-pop France. Ils se sont réunis sous le nom de Soompi France et ils ont fonctionné. Hein, donc, le Soompi France a fonctionné de 2011 à 2016, donc pendant 5 ans. Le site a fermé et ensuite il y a Kijen qui a ouvert par la suite avec des anciens de Soompi France dont je ne faisais pas partie. Actuellement, on reste quand même pour la communauté francophone sur un fonctionnement qui est très où les fanbases restent quand même au centre de la diffusion. On n'a plus un gros site comme Soompi ou comme All K-pop qui en fait drainait toutes les news et les fanbases allaient s'alimenter dedans pour vivre. Alors que pour moi la communauté francophone elle se base encore beaucoup sur ce que proposent les fanbases.
Ben oui, et du coup, les fanbases avant allaient enfin, récupérer sur Soompi France et maintenant ils vont récupérer sur Soompi.com. C'est la seule différence, c'est que maintenant ils sont obligés de retraduire, quoi. S'ils veulent prendre l'info sans la prendre directement en coréen, ils la prennent plus sur Soompi.com. Enfin, remarque, il y en a déjà qui préféraient aller sur Soompi.com pour pas avoir le délai de traduction entre Soompi.com et Soompi.fr, parce que forcément, Soompi.fr devait donc traduire tous les groupes. Quand toi, il n'y a qu'un groupe qui t'intéresse, autant aller directement sur Soompi.com pour faire ta traduction pour ta fanbase, quoi.
Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça fonctionnait pour toi, enfin, en tant que fanbase, comment on
Alors,
fait?
moi, donc oui, effectivement, c'était particulier. Je faisais partie de l'équipe fondatrice de United French VIP, alias UFV, donc la fanbase française de Big Bang, qui est donc, on rappelle, le boys band emblématique de la YG Entertainment. Et ceux qui se rappelleront où j'en suis aujourd'hui en tant que fan de K-pop doivent être en train de ricaner.
Moi, je
Donc,
ricane en tout cas.
voilà. Donc, parce que voilà, moi je suis partie de l'autre bout de l'échiquier maintenant au niveau de mes goûts en termes de K-pop. Et donc, ça s'est pas très bien terminé pour moi, donc faut pas me chercher sur le site ou quoi. D'autant qu'ils ont décidé de garder dans l'historique du site que les admins de fanbase, je crois qu'ils se comprennent totalement quand on sait combien de personnes sont passées par la team. Hein. Généralement, plus c'est gros, plus il y a de gens qui passent. En coup de vent, on va dire. À titre personnel, moi, j'étais là surtout pour donc à l'époque de la création et le suivi du tout départ en fait de la fanbase. Bon, parce qu'après il y a eu quelques complications. Moi, de mon côté, j'avais créé le forum et en soutien graphique, j'avais fait le premier logo, le noir en forme de pentagone avec le texte jaune. Aussi, j'avais fait quelques bannières pour les réseaux. J'étais occasionnellement correctrice et je participais notamment aux prises de décision au sein de la fanbase ainsi qu'au paiement du serveur du site. Parce que oui, nous avions pris cette décision dès le départ et après, il fallait bien l'assumer. C'est par ailleurs une des étapes de construction de la fanbase, une des premières. Quel support vous allez choisir pour diffuser vos informations? Donc, comme on le disait, de nos jours, les gens vont penser principalement aux réseaux sociaux, surtout pour débuter. Mais sur le long terme, avoir un site, un blog ou un forum pour fixer une plus large base de données sur le groupe ou l'artiste, c'est pas négligeable si on veut sérieusement grandir, en fait. Chaque support a ses spécificités, du coup, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le mieux à votre projet. Voilà, donc généralement quand vous voulez faire une grosse 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 fanbase, vous allez prendre le site internet si vous voulez pas de publicité, vous allez prendre un, et vous voulez un vrai nom de domaine, vous allez prendre quelque chose de payant. Donc voilà, quand on parle d'investissement en K-pop, là c'est de l'investissement concret, quoi, c'est des sous. Donc voilà, pour le début. Après, il y a tout le relationnel à gérer. Ce qui était intéressant avec UFV, c'est qu'on était dans le cadre d'une réunion de différentes fanbases. Ce qui, sur le papier, représente un projet très excitant, mais dans les faits, c'est demander à des gens qui chacun était leur propre capitaine d'accepter de partager les commandos. Donc, au-delà des problèmes d'ego, se sentir rétrogradé alors qu'on s'était beaucoup investi dans son projet personnel, ça peut être un peu compliqué. Mais après, ça peut faire quelque chose d'énorme. Mais voilà, sur le moment, il faut pouvoir gérer le truc. Pour tout ce qui est décision, notamment, vous pouvez faire tous les sondages dans l'équipe que vous voulez et être le plus juste et équitable possible. Si une personne se trouve toujours du côté de la solution qui n'est pas choisie, la frustration commence à s'accumuler et c'est sur ce genre de choses, en fait, que naissent les tensions. C'est vraiment tout bête, hein. Souvent, tout le monde est de très bonne volonté, mais c'est les relations humaines basiques, en fait, dans un microcosme comme ça. Donc voilà, ça pète facilement. Moi, j'ai assisté à beaucoup de choses comme ça, des petites disputes, des petits règlements de compte, tatata, il y a des non-dits qui s'accumulent, ce genre de choses. Je pense que beaucoup de gens ayant été dans un gros projet pourront témoigner que plus il y a d'enjeux, plus il y a moyen que ça complique les relations au sein d'une équipe. Me concernant, je m'étais mise un peu à l'écart rapidement, en fait, principalement parce que je savais que j'avais pas trop les épaules pour un gros truc et que je voulais pas handicaper le projet en faisant défaut plus tard. Le truc, c'est que j'avais beaucoup participé à l'impulsion de départ, en mode ouais, on va le faire, on va réunir tout le monde et tout, on va faire un truc énorme, moi je peux vous créer le forum, tatata. Et voilà, l'ambiance bien énergique, donc ça m'a été un peu reproché après de pas suivre le mouvement. Bon, après, malgré tout, j'avais prévenu que je prenais pas de poste clé, justement parce que je savais que je tiendrais pas la distance, j'avais mes problèmes perso à côté et tout. C'est quelque chose que j'avais fini par intégrer sur moi-même au fil du temps, et c'est important de savoir si vous allez être capable de tenir aussi pour pas faire défaut aux gens. Après, mon cas est particulier, moi, dans la mesure où je suis consciente aussi d'avoir apporté en plus un vrai problème de l'extérieur dans cette histoire, donc je peux pas dire que mon parcours est typique non plus. Par contre, quelque chose qui est déjà beaucoup plus classique, dans la mesure où j'ai commencé à m'investir en K-pop à travers Big Bang, mais que par la suite je me suis vraiment ouverte à la K-pop dans son ensemble, et ben, j'ai finalement préféré ce qu'il y avait ailleurs. C'est ballot. Mais ce sont des choses qui arrivent, rien de dramatique là-dedans. Donc voilà, c'est est-ce que votre passion va tenir sur le long terme aussi? Est-ce que ça peut décliner? Voilà, moi sur le coup, ça non plus, ça n'a pas tenu au final pour plusieurs raisons. Donc voilà, néanmoins, moi ça m'a pas empêché de participer du coup à la création d'un projet d'envergure et d'assister en interne au déroulement de tout ça. Et j'en retiens que vous pouvez vous montrer aussi carré que possible, vous n'êtes jamais à l'abri que ça tourne pas toujours bien. Il y a des problèmes de serveur, des bugs de réseau, des tensions au sein de l'équipe. Oh, franchement, voilà, c'est la loi de Murphy, tout peut mal se passer. Après, c'est à vous d'arriver à relativiser, quelles que soient les circonstances de départ, les gens, la communication. Vous pouvez avoir l'impression que tout est clair, que tout le monde est d'accord, qu'on a tout mis à plat, et parfois les conséquences vous dépasseront quand même. Vous pouvez faire que de votre mieux. Et j'ajouterai en conclusion, parce que je trouve que c'est pas négligeable, que le fait que les fanbases sont souvent débutées par des jeunes gens, des lycéens, des étudiants, ce qui, comme chacun sait, n'est pas une période optimale concernant le recul sur les situations et la maîtrise de soi, je pense que ça n'aide pas à gérer tout ça. Je pense que c'est important à souligner. Voilà, je pense que si les fanbases de K-pop se créaient comme des entreprises avec que des gens très matures, ça se déroulerait pas de la même façon, il y aurait peut-être d'autres problèmes. Mais voilà, du coup, ça fait que le moindre petit problème quand on est très très jeune peut faire effet boule de neige très rapidement, en fait. Donc je pense que ça n'aide pas. Voilà, en tout cas, moi, c'était mon expérience personnelle à ce sujet-là. Ça n'a pas duré hyper longtemps non plus. Je pense que ça n'a pas duré plus d'un an parce que, y avait quand même quelques mois où il a fallu donc mettre toutes les fanbases d'accord et créer le projet, créer le site, tout ça. Ça nous a pris pas mal de temps de faire les grosses bases de données avec les news, les images, les tatata. Après, du coup, moi, petit à petit, du coup, je me suis éloignée, puis il y a eu les conflits et tout ça. Mais voilà, franchement, si vous êtes ultra motivé, voilà, faut savoir que c'est clairement pas facile. Donc, si vous embarquez d'autres gens autour de vous, faut bien vous mettre ça en tête, que voilà, ça va être collectif et que chacun va devoir y mettre du sien, tout ça. Mais par contre, honnêtement, ça vaut grave le coup par rapport à ce que ça apporte à la communauté en K-pop. Et des fois, les fanbases n'ont pas beaucoup de retours. C'est vrai que voilà, on le dit beaucoup d'ailleurs en ce moment là, justement avec l'actualité, beaucoup de gens vont vers les fanbases en France et c'est bien parce qu'elles n'ont pas beaucoup de retours pour le travail qu'elles font. Mais je tiens à dire aux fanbases, on vous regarde même quand on ne vous répond pas. Voilà, moi-même ça m'arrive de scroller sur les trucs des fanbases et voilà, on communique pas forcément avec elles alors qu'elles sont très ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui disent que il y a des admins de fanbase qui leur répondent pas bien ou quoi. Ben, on peut avoir une mauvaise journée déjà, ça arrive. Et puis il faut voir comment vous vous adressez à elles aussi. Voilà, mais franchement, les fanbases, au contraire, comme elles font vraiment ça par passion, elles sont avides de retours, de commentaires. Même nous sur iGood, d'ailleurs, honnêtement, on attend que ça, qu'il y ait des gens qui veuillent débattre avec nous, que vous soyez d'accord, pas d'accord, ce genre de choses. Franchement, n'hésitez pas du coup à suivre les fanbases. Les fanbases, franchement, ce que vous faites, c'est génial. C'est pas forcément parfait, mais personne n'est parfait et vous faites ça bénévolement et du coup c'est honorable quoi qu'il arrive. Donc franchement, les gens, suivez les fanbases et partagez avec eux et commentez et voilà. C'est important.
Diffuser les news de K-pop et tout, ben, ça permet de créer des petites communautés comme ça. Donc on a les fanbases. Et effectivement, ça permet de créer des liens. Et peut-être que c'est une dimension à laquelle on pense pas suffisamment aussi quand on se lance dans la création de sites. C'est qu'on va être avec, on va créer quelque chose avec d'autres personnes. Donc ça veut dire que on peut former des relations qui peuvent aller au-delà de simplement être fans ensemble. Et par exemple, là pour nous, je sais que moi, t'es l'une des premières commentatrices que j'ai repérées parce que, bon, déjà les commentaires longs qui dépassaient une phrase, oulala.
Franchement, j'espère que t'as oublié mes premiers commentaires parce que je vais les oublier aussi, hein,
Bah, tes
t'inquiète.
premiers commentaires, c'était pas des critiques?
Mais mes premiers commentaires, c'était quand j'étais en mode pro YG de la folie et que je critiquais la SM.
Je me souviens pas du contenu, mais
Ah ben,
je me souviens pas du
je me
contenu. Mais bon,
souviens.
après, en même temps, comme ben, toute façon, tout le monde savait que j'étais YG, quoi. Hein. Enfin, c'est pas que je cherchais à le cacher, mais ouais, moi c'est YG. Hein. J'ai jamais dit, jamais voulu. Après, ça m'empêchait pas de traiter d'autres news et d'être un peu versatile sur d'autres groupes, d'autres agences. Mais c'est vrai, donc effectivement, c'est peut-être pour ça que tu es repéré, parce que tu faisais des commentaires sur la YG. Donc je me suis dit, ah, elle, c'est elle, oui, voilà, ok, d'accord. Bon, bah, oh, j'ai fait un article sur la YG, j'attends un commentaire de Vicky. Il y a toi, et puis Jenny, évidemment, parce que, comme, en plus, Jenny, elle a toujours gardé le même pseudo, je crois. Quels que soient
Ouais,
les
Jenny
forums
Hans, ouais.
ou les sites ou les blogs qu'elle visite, je crois qu'elle a toujours eu le même pseudo.
En même temps, moi, ça a toujours été Vicky Venin aussi. Enfin, j'ai souvent le sous-pseudo hein, K-pop de Vicky, mais sinon, Vicky Venin, ça date aussi, quoi. Donc, souvent, les gens me retrouvent grâce à ça
Bah
aussi.
ouais, non, mais du coup, mais vous deux, enfin, je vous avais repéré, quoi. Et enfin, vous faites parmi celles. Et puis, je sais qu'il y a d'autres personnes. Une fois qu'on a mis le forum en place sur Soompi France, bon, je participais pas nécessairement, mais j'y allais de temps en temps juste pour voir ce que vous vous disiez, voir si vous réagissiez sur les articles et tout ça. Donc, il y avait les pseudos que j'avais repérés, évidemment. Et ça, c'est clair que ça avait plaisir de voir des gens échanger, pas forcément sur News, hein, mais juste voir des gens qui sont contents parce qu'il y avait des floods. Donc c'était et chaque groupe avait son flood, et puis il fallait c'est content de voir des gens qui étaient ça faisait plaisir de voir des
Ouais,
gens qui étaient contents de partager
de
tout
voir
ça.
que même si tu participes pas activement à la conversation, t'es vecteur de lien social entre les gens, en fait.
Oh, comme c'est joliment dit. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est ça aussi, je pense, qui te motive. Parce que quand t'es dans des moments où tu te demandes, bon, est-ce que je continue ou pas, et puis tu vois, ben, deux personnes, trois personnes sont en train de discuter sur, à partir de ce que t'as pu leur proposer comme contenu, ben, tu te dis, bon, ben, allez, je vais peut-être encore continuer une journée,
C'est
et
ça.
puis l'autre journée, et puis encore une autre, mais c'est sûr, parce que j'ai, en tant que traductrice, on va dire. Enfin, je vais dire, ça fait 10 ans que je suis dans la K-pop. Un peu plus de 10 ans. Et je veux dire, j'ai passé plus de la moitié en étant contributrice de communauté de fans. Avant de traduire, je sous-titrais des vidéos. Donc j'étais déjà dans un côté traduction et puis tout ça. Mais je veux dire, ça m'a fait développer des compétences que je ne pensais pas. à voir. Mais c'est, tu sais, l'utilisation de logiciels et tout ça, que tu en parles à des gens, ils te disent, mais c'est quoi ça? Mais ouais, mais quand t'es fan et que tu veux partager avec les gens, et ben ça te pousse à t'intéresser à d'autres, à des domaines auxquels tu pensais pas du tout. Donc bon, mine de rien, mais bon, tout reste une question de motivation.
Et du coup, sur le sujet dans le même domaine, voilà, moi c'est vrai qu'à l'époque où je commentais sur Soompi, si on m'avait dit que dans 3 ans, 4 ans, je ferais un podcast avec Patra, je l'aurais pas cru. Hein, voilà, c'est que voilà, nous on était une petite équipe en mode ah, encore un article de Patra, c'est cool parce qu'elle aborde des sujets qu'on voit pas toujours. Des fois, d'aborder des sujets, j'y connaissais rien, ça m'intéressait pas forcément, mais parce que toi t'étais à fond et que t'écrivais là-dedans et que moi ça m'a jamais fait peur de lire de la longueur et tout ça, et ben honnêtement, c'était agréable à lire et ça me suffisait en fait et ça me renseignait sur un sujet. Alors que les news, au final, ça ne parle que de l'actualité. Le fait que tu fasses des articles de fond, il y a une petite communauté d'entre nous enfin, qui attendait vraiment le truc. Et d'ailleurs, moi dans la catégorie je ne me cachais pas, moi je ne me cachais pas que j'avais des rédacteurs préférés, hein. Je disais mon top 3 c'est machin machin, et moi je suis toujours à partager mes goûts sur tout et n'importe quoi, donc voilà. Et voilà, donc au final vous voyez, enfin il y a des gens que vous aimez beaucoup lire et tout ça, et au final vous voyez juste comme quelqu'un d'extérieur, un commentateur. Et en fait, on fait attention à vous. Je sais que moi, par exemple, c'est l'échelle en dessous, tu vois, t'as l'article, t'as le commentaire, et quand tu commentes, tu vois les gens qui te likent. Et bien même si vous exprimez pas, que vous faites que liker un commentaire, les gens qui commentent regardent les gens qui les likent. En fait, c'est même à plus petite échelle, voilà, on fait tous attention, mine de rien, aux gens qui sont autour de nous, et ça crée des échanges. Et des fois, il y a des échanges d'échelle comme ça, c'est-à-dire des gens qui faisaient que liker, osent enfin commenter, des gens qui faisaient que commenter, osent enfin lancer leur projet. Et voilà, du coup, c'est ça qui est beau dans la communauté comme échange. Et chaque niveau, en fait, c'est important parce qu'on contribue tous, même si on ne fait que lire, ça fait une vue sur le site, ça a l'air de rien, mais on fait partie du truc, en fait. Même si on n'a pas l'impression, à partir du moment où on se renseigne, où on lit, où on fait juste un like, où on fait juste un commentaire, on commence déjà à s'intégrer à la communauté. Et elle est belle, notre communauté, mine de rien.
Mine de
Voilà.
rien. Bon, c'était la petite pause émotion là, mais franchement, merci beaucoup pour tout ce que
Pour
tu me
ça.
dis. Tu me dis encore après toutes ces années, parce que ça me touche encore toujours autant.
Bah ouais, mais je le pense toujours autant, franchement, ça fait bizarre du coup.
Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, c'est sur le fait qu'il y ait. On peut pas gérer une fanbase tout seul, on peut pas gérer un site tout seul. C'est pas, enfin, on peut essayer, hein, mais si dans l'idée on veut contribuer à la communauté de façon régulière, oui, bah, il faut s'entourer. C'est pas possible autrement parce que ça demande beaucoup trop d'investissement au niveau du temps pour gérer tout seul, surtout quand on a des études à côté, qu'on a un travail à côté, c'est pas possible. Et puis même en tant que même si on est tout seul et qu'on a que ça à faire, je veux dire moi je sais que enfin certains jours j'ai pu traduire je crois que mon record ça a été 17 news dans la journée. 17 news dans une journée. En sachant que quand je dis 17, ça veut dire que ça, il y avait peut-être 3 ou 4 clips vidéo dedans, mais tout le reste, c'était vraiment, il y avait des mots à traduire, quoi. C'était pas juste, ouh, un tel a sorti son clip. Et voilà, j'ouvre le lien vidéo. Il fallait vraiment réfléchir à ce qui était écrit. C'est lourd, quoi. Et je l'ai fait pendant 5 ans, et quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai fait? Je traduisais pas 17 news par jour tous les jours, hein, faut pas exagérer non plus. J'avais des jours de repos, ouais, de temps en temps, mais. Il y avait au minimum 3 ou 4 news que je devais écrire par jour. Et en fait, je crois que c'est ça aussi peut-être qui manque à la communauté francophone, c'est ce recul. Enfin, c'est aussi ce courage d'admettre que ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement au niveau du temps. Bon, déjà, à la base, c'est savoir traduire. Donc, anglais vers français, la base.
Et de savoir faire un peu d'adaptation, parce qu'il y a traduire et traduire mot à mot, tu vois.
Ouais, parce que si c'est pour aller chercher sur Google Trad aussi, c'est bon, c'est pas la
Voilà,
peine, hein.
moi je sais que enfin, au niveau de la correction, je faisais aussi beaucoup d'adaptation. Parce que moi j'aime bien quand le truc ressemble à du français que tu pourrais lire tous les jours. Et c'est vrai que des fois quand tu lis certaines traductions, tu te dis que c'est pas extrêmement naturel. Des fois il y a la langue coréenne qui fait que tu peux pas formuler le truc d'une façon qui sonne français courant. Mais des fois il y a clairement un défaut d'adaptation à partir de l'anglais où il y avait moyen de faire un peu plus. Mais comme tu dis, des fois c'est une question de temps aussi et on essaye de faire au mieux, quoi.
Et donc déjà le temps personnel qu'on investit pour proposer du contenu à la communauté, mais aussi tout simplement le truc mais vraiment tout bête, le décalage horaire avec la Corée du Sud. Quand on est en France, comme il y a 8 heures de décalage horaire avec Séoul, en fait notre temps d'activité pour sortir les news, par exemple il y a un clip vidéo qui va sortir à minuit en Corée du Sud, chez nous ça sera soit à 16h soit à 17h. Donc si tu as une activité à côté, tu es en cours ou tu es à ton travail, donc tu peux pas écrire la news tout de suite. Pareil, quand ce sont des clips qui sortent à 9h du matin, ça veut dire que chez nous, il est 4h ou 5h du matin. Ça veut dire que tu dois te lever plus tôt pour faire la news, pour que les gens qui vont se lever vers 6h ou 7h du matin pourront la voir eux aussi, en même
C'est
temps
ça.
que ceux qui l'ont vu plus tôt. Enfin, c'est très compliqué en fait à gérer en termes de temps quand on
Oui,
est.
parce que je sais que enfin, en tant que fan, déjà, on a tendance à faire des nuits blanches pour attendre les clips des fois. Et clairement, les rédacteurs, ils ont autre chose à faire. Parce que eux, ils doivent traduire, c'est pas juste pour le plaisir, quoi. Donc
Ouais,
voilà.
et puis
C'est
après,
vraiment.
imagine, tu sais, les jours où il y a 4 ou 5 clips vidéo qui sortent. Et puis le truc, c'est 4 ou 5 groupes, et ce sont même pas des groupes que t'aimes.
Ouais, faudrait limite s'organiser, tu sais, avec deux équipes, une équipe de jour et une équipe de nuit, tu sais,
Mais ouais, mais
pour
c'est ça,
couper.
mais c'est donc c'est pour ça qu'il faut être en équipe. Enfin, si on veut
Voilà.
proposer un site de news qui soit alimenté de façon régulière et correcte, il faut une grosse équipe. Il y a pas de secret. Parce que même quelqu'un qui serait payé à travailler que sur ça toute la journée, c'est pas possible. Et
Non,
de
c'est pas
toute
possible.
façon, enfin, quand on regarde les autres sites, les gros sites comme OK-Pop, Koreaboo, Soompi, leur équipe de rédacteurs tourne souvent. Parce que c'est quelque chose que tu vas faire sur 2 ans, 3 ans maximum, et après tu peux plus. C'est un rythme trop soutenu. Surtout si eh ben, vous êtes que deux ou trois à pouvoir proposer des traductions correctes, et qu'après il faut repasser derrière les 3 ou 4 autres personnes qui sont censées apporter aussi leur aide à l'équipe, mais qui en fait sont pas vraiment des personnes sur qui on peut compter, donc c'est compliqué.
Après, c'est aussi l'état de la K-pop moderne, parce que mine de rien, je pense qu'il y a 10 ans, il y avait moins de matière, quoi. Quand même.
Pas nécessairement, pas
Parce
nécessaire.
que maintenant, parce que par exemple, regarde, maintenant, il y a même les V-Live et tout. Enfin, on lâche pas les idoles. Il y a 3 fois plus de groupes qui débutent. Les grosses agences arrivent à maintenir leur groupe sur des années. Donc maintenant, connaître une agence, c'est connaître au moins les 10 groupes qu'elle a en activité, tu vois, ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que c'est plus dense qu'avant, quand même.
Ben, voilà, les V-Live par exemple, ce sont les agences qui vont gérer. Enfin, c'est pas le site de news qui va te donner, qui va traduire par exemple. C'est les
Ouais.
fanbase ou ce sont les agences elles-mêmes qui vont proposer les traductions. Mais le site de. Enfin, dans ma tête, en tout cas, dans ma conception, le site de news, il va peut-être te mettre un
Ouais.
message sur les réseaux sociaux pour te dire, ah, il y a un V-Live qui a commencé, qui est en cours, ou qui aura lieu
Ouais,
tel jour, mais ils vont pas te dire plus.
mais dans les faits, en fait, les sites de K-pop, donc qui font pas de la news pure, du coup, on est bien d'accord, aiment bien faire des reports, en fait, se saisir des anecdotes qu'il y a eu dans les V-Live pour faire des articles, quoi, tu vois.
Donc là, on retombe sur la question de qu'est-ce qu'on traduit?
Ouais.
Parce que quand on a, parce que quand t'es, si tu lis le coréen, bah en fait, tu as accès à tout. Et si tu passes par l'anglais, donc déjà, tu as le filtre de ceux qui ont choisi de traduire ou pas. Et une fois que, et en tant que français, bah, tu vas encore avoir un deuxième filtre. C'est le tri fait par ceux qui vont te traduire les news anglophones. Donc tu es encore plus réduit dans tes possibilités.
Mais c'est vrai que ça va encore plus loin que la traduction parce que c'est de la transcription. C'est récupéré par écrit ce qui s'est passé
Ouais.
factuellement dans des vidéos, quoi.
Après, en soi, le tri d'information, enfin bon, C'est encore une fois, c'est la ligne éditoriale. Si tu pars
Ouais.
du principe que tu veux faire du clic, eh ben tu vas proposer ce qui fait du clic, c'est-à-dire ben, parler des régimes, parler de un tel est sorti avec un tel, voilà les photos d'enfance, ce genre de choses qui en soi,
Putain, les photos d'enfance.
des choses qui en soi, enfin je veux
Ouais.
dire, c'est pas des vraies news quoi, ça sert à
Non, c'est
rien.
pas de la news, c'est de la matière qui t'intéresse quand t'es fan ou que t'aimes bien voir des anecdotes à côté, mais qui devraient pas être aussi, pas être centrales parce qu'il y a déjà tellement de matière à suivre sérieusement sur l'actualité que si tu rajoutes ça, forcément, à un moment, tu fais des choix et tu zappes une partie de l'actualité si tu veux vraiment mettre ça dedans, quoi.
Et ensuite, ben, la deuxième chose, enfin, la deuxième difficulté ou la deuxième question à se poser, c'est comment innover? Parce que pour moi, en tout cas, la difficulté des sites actuels, aussi bien anglophones que francophones, hein, c'est comment proposer un contenu intéressant et qui soit original. Donc, je sais que nous, à l'époque de Soompi, on nous encourageait bien sûr à faire des articles qui sortaient de l'ordinaire. Maintenant, pareil, hein, c'est toujours une question de temps.
C'est
Tu
clair.
vas mettre, tu vas passer 7 ou 8 heures sur un article qui va faire, je sais pas, 2000, 3000 mots. Alors, tu auras un côté des commentaires qui vont te dire, ah non, c'est trop long, c'est un pavé. D'un autre, tu auras ceux qui vont te dire, ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est pas trop ce qui m'intéresse en fait. Donc ça te permet quand même d'ajuster sur ce que veulent les gens.
Ça sent
Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est que en fait, c'est toujours une question perpétuelle, mais comment innover, comment proposer quelque chose d'original, comment intéresser les gens? Parce qu'évidemment, si les gens n'ont jamais vu quelque chose, ben ils peuvent pas
c'est
savoir
sûr.
si ça leur plaît ou pas. Et ensuite, ben, si tu leur proposes, ils te disent non, mais finalement ça me plaît pas, ben, c'est à toi de réfléchir et de te dire bon, ben, ça pas plu, donc il faut que je vois comment, nanana, tac tac. Mais ça, enfin, pour moi, les sites actuels, c'est leur plus grosse difficulté. Parce que faire des classements ou des quiz, ok, un temps ça va, mais je veux dire, concrètement, en termes d'information, qu'est-ce que ça change? Rien. C'est juste qu'on. C'est un peu, tu sais, quand on lisait. Enfin, je sais pas si toi t'as connu cette époque-là. Quand j'étais ado, on achetait beaucoup tout ce qui était Star Club.
Oui, bah si, j'ai connu aussi.
Ok, t'as connu. Mais voilà, mais c'est ça. Donc tu vas faire des tests, tu vas. Mais c'est le truc accessoire. C'est pas ce qui
Ouais.
devrait être le truc qui te démarque des autres. C'est la.
Après, il y a le truc qui est toujours sympa, c'est d'impliquer la rédaction pour mettre en avant des trucs qui, eux, leur ont plu.
Oui.
Ça marche bien parce qu'au final, comme chaque rédaction de magazine est différente, tu vois, enfin de médias est différente, au final, les choix ne seront pas les mêmes.
Pour revenir sur les tensions sur les sites, de toute façon, dès qu'on travaille en équipe, dès qu'on travaille à deux, à partir de deux, forcément, il peut y avoir des conflits. La question, ça sera comment on réussit à les gérer, comment on réussit à mettre les choses à plat et surtout à aller de l'avant. Et tous les sites, ils connaissent forcément à un moment des problèmes. Et comme je disais sur le fait que ben, les équipes sont souvent renouvelées, donc ça veut dire qu'il faut réapprendre à travailler avec des gens, il faut réapprendre, enfin s'adapter surtout, c'est surtout une question d'adaptation, s'adapter aux façons de travailler. Mais tous les groupes, enfin tous les sites du départ, Soompi, All K-pop, Asian Chunky, K-popalypse, Netizen Buzz et tout, c'est le même groupe de personnes. Alors, c'est pas qu'ils étaient amis, mais c'est juste qu'ils se connaissaient très bien sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc, il y avait eu une histoire, je crois que c'était en 2013. Il y avait une des rédactrices de Netizen Buzz qui avait fait un live. Qui avait fait un live et puis a traduisait en direct des commentaires sur des liens que les lecteurs lui envoyaient. Et en fait, c'est une ancienne rédactrice de K-pop. Pour moi, ça a été leur meilleure rédactrice. À l'époque, parce que tout le monde pense qu'au K-pop, ça a toujours fait que du trash. C'est faux. Il y a une époque, on va dire, toute l'époque de 2PM, en fait. Toute la période début 2PM jusqu'à 2011-2012, All K-pop proposait quand même des articles assez fiables.
Ouais, de
Et
qualité.
ouais, c'était surtout, notamment grâce à cette fille. Et donc les dirigeants d'All K-pop en fait ils ont balancé son nom sur les réseaux sociaux en disant ah ouais c'est elle et tout, donc ils ont révélé son identité, ça a fait un petit scandale et tout, Mais bon, tout ça pour dire que chacun bénéficie de l'existence de l'autre, parce que du coup, comme les gens ont la possibilité d'aller voir ailleurs, donc ça veut dire qu'on peut faire des comparaisons, ils peuvent jouer sur ça.
Ouais, ça circule du coup.
C'est surtout ça. Et moi, c'est toujours, quand on avait des discussions, c'est toujours l'exemple que je donnais. On fait du fast-food de toute façon. Faut pas chercher à prétendre de faire autre chose. C'est des fast news. On n'est pas là pour faire autre chose. On pourrait. Je dis, c'était mon rêve, c'était de faire plus. Mais bon, après, manque de temps, manque d'investissement. Donc voilà, mais.
Mais c'est toujours le dans un monde idéal.
Voilà, mais. C'est pas parce que t'as McDonald's que tu peux pas aller chez Burger King, que tu peux pas aller au kebab du coin, que tu peux pas aller manger une pizzeria. Et c'est pas parce que t'aimes tout ce qui est fast-food que tu vas pas aimer aller manger dans un restaurant 5 étoiles. Mais la question, c'est vraiment de savoir, en fait, laquelle de ces options on te propose. Et ensuite, toi, en tant qu'une de ces options, ne pas chercher à prétendre ce que tu n'es pas. Alors, c'est pas, si je sais que je fais de la fast news, je vais pas chercher à faire genre, ouais, mais quand même, c'est rechercher ce que je fais. Voilà, non. Faut aussi reconnaître ce qu'on fait.
Oui, il faut aussi reconnaître quand on fait pas du reportage de fond et des choses comme ça. Au bout d'un moment, voilà quoi.
Voilà, donc. Voilà, enfin, pour moi, c'est le mini, enfin, c'est l'honnêteté intellectuelle, quoi.
C'est ça, c'est ça.
C'est juste
L'éthique.
ça. Tout simplement. Donc avant de se quitter, on va pas faire de séance de recommandation, exceptionnellement. Par contre, on va vous parler un petit peu de notre prochain projet. Et on aimerait bien avoir votre avis en fait pour savoir si on le développe vraiment et on le lance de façon concrète. Donc en fait, ça serait juste de proposer des chroniques sous format court, toujours au podcast, mais format court, donc maximum 5 minutes. Sur un sujet, donc soit peut-être que vous pourrez nous suggérer des sujets via les réseaux sociaux, ou alors nous-mêmes on pourra réagir à l'actualité, ou on voudra réagir par rapport à un thème précis. Donc du coup, ça sera des chroniques individuelles. Donc vous aurez les chroniques de Patra, les chroniques de Vicky, avec un peu de chance les chroniques de Jenny. On espère toujours
On y
qu'elle
croit.
trouve. On espère, on croise les doigts. Mais en tout cas, c'est sûr, les chroniques de Patra, les chroniques de Vicky, vous les aurez. Ben dites-nous si ça vous intéresse ou pas.
Alors on peut voilà, soit aborder des sujets à la demande, soit on fera ça un peu à l'instinct, du genre un comeback qui nous plaît, un drama dont on a envie de parler, ce genre de choses.
Donc dites-nous si vous êtes intéressés. Et puis ben, nous, on va continuer à réfléchir dessus. Et parce qu'on arrive quand même bientôt à la fin de l'année scolaire, mine de rien. Et donc j'espère qu'on pourra se retrouver. Donc là on est fin avril, donc peut-être au mois de juin. Bon, en
Ouais.
même temps j'avais dit ça au dernier épisode et puis finalement on s'est revu quand même dans le même mois. Hein, donc
Ouais, donc c'est aléatoire et restez à l'affût.
voilà,
Voilà.
restez connectés. Ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi encore une fois.
Moi de même.
Puis ben, n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur Twitter, à Good France. On répondra sans aucun souci. Ben, pour ceux qui vont rentrer en vacances, ben, bonnes vacances. Et puis pour ceux qui vont, pour qui c'est bientôt la rentrée, ben, bonne rentrée.
Bon courage.
Bon courage. Et puis ben, à très bientôt.
Salut!
Salut!